L'invité de Stade Bleu, Jacques Vendroux.
Bonsoir Jérôme Valk, merci d'être l'invité une nouvelle fois de Stade Bleu. Vous nous recevez à la FIFA où vous êtes enneigé, mais a priori tout va bien. Comment vous allez en ce début d'année ?
Très bien, puis le froid ça conserve, donc non, tout va très bien.
Alors, on est obligé d'aborder tout de suite, je veux dire, le sujet récurrent de l'élection. C'est bientôt l'élection, Joseph Blatter se représente, l'élection c'est en mai. Alors, il y a eu beaucoup de candidats, il y en a qui se sont déclarés officiellement, il y en a qui ont fait ça comme un jeu. Je crois qu'il faut d'abord bien dire que la FIFA, c'est pas n'importe quoi, la FIFA c'est extrêmement important, et toute candidature doit être sérieuse. C'est ça qu'il faut bien expliquer aux auditeurs de France Bleu.
Que la FIFA ne soit pas un jeu, ça c'est clair. D'abord, le football est le premier sport au monde. La FIFA est responsable non pas simplement pour l'organisation de compétitions, dont la célèbre Coupe du Monde, mais pour le développement du football dans le monde entier, a un rôle social, a un rôle économique, a un rôle politique. Donc je veux dire, le président de la FIFA est un homme important, a une tâche importante, et par conséquent, c'est absolument pas un jeu. Donc oui, c'est sérieux, et d'ailleurs c'est tellement sérieux qu'il a été décidé de mettre en place une commission électorale et qu'il y a des règles très précises qui seront appliquées, à savoir que vous devez être supporté par 5 associations membres au minimum sur les 209 que nous avons. Vous devez passer un test pour assurer que vous êtes quelqu'un, on va dire, de parfaitement intègre. Et vous devez ensuite suivre un certain nombre de règles pour assurer que votre campagne est une campagne qui respecte les principes d'éthique, les principes moraux qui font partie de ceux qu'un président de la FIFA doit avoir. Ensuite, vous pouvez critiquer tout ce que vous voulez, vous pouvez dire tout ce que vous voulez sur la FIFA. La FIFA est un organisme majeur dans le monde, encore une fois, social, économique, politique, culturel, parce que la FIFA, c'est le football, et par conséquent, le président de la FIFA doit être quelqu'un de parfait. Donc, voir des candidatures qui ressemblent à des farces, voir des candidatures qui sont supportées par des structures qui n'ont pas à le faire, il y a un moment donné où c'est vrai que ça peut paraître un peu bizarre, pour pas dire choquant, mais in fine, ceux qui seront candidats à la présidence de la FIFA sont des gens qui peuvent devenir président de la FIFA et doivent suivre encore une fois une procédure.
On va bien expliquer aux auditeurs de France Bleu le processus. Jusqu'à jeudi dernier, il y avait, c'est la règle, tout le monde doit poser sa candidature officiellement au siège de la FIFA. Après, il y a ce qu'on appelle une commission électorale qui va se réunir la semaine prochaine et qui va valider. Donc, on aura officiellement les candidats donc en fin de semaine prochaine.
Alors, jusqu'au 29 janvier, tout candidat devait m'adresser...
Donc, jeudi dernier,
devait m'adresser une lettre directement pour me faire part de sa candidature et me donner ou adjoindre à cette lettre ces lettres de support des 5 associations membres, qui ne peuvent pas supporter, bien évidemment, 2 candidats différents. À partir de là, l'ensemble de ces dossiers a été remis à la commission électorale, qui est dirigée par Domenico Scala, qui est aussi le président de la commission d'audit et de conformité de la FIFA. Et il a aussi avec lui le président de la commission juridique, Claudio Sulzer. Et donc, ils prennent l'ensemble de ces dossiers, ils vont étudier l'ensemble de ces dossiers et, en effet, vont donner dans quelques jours la liste définitive des candidats qui seront à l'élection le 29 mai prochain ici à Zurich.
Alors, justement, après, tout le monde rentre en campagne. C'est comme une élection présidentielle.
Oui, tout le monde rentre en campagne, avec encore une fois un certain nombre de devoirs par rapport à cette campagne.
Vous êtes une sorte de surveillant général pour que la campagne se déroule correctement ?
Non, c'est la commission électorale. Pour justement éviter qu'il y ait un mix et que l'on accuse ensuite l'administration potentiellement de supporter le candidat sortant qui se représente, Blatter donc, l'administration est en dehors de cette campagne et c'est vraiment cette commission électorale qui agit et qui va jusqu'au jour de l'élection. Moi, mon seul rôle futur dans l'élection, ça sera de conduire le vote au Congrès.
C'est-à-dire
que je vais appeler chaque association membre à venir voter dans des conditions qui sont à discuter avec la commission électorale. Est-ce qu'on mettra deux entités, deux structures où chaque association ira voter comme ça avait été le cas en 2011 mais c'est ensuite, c'est vrai que Blatter va quitter son siège pendant le Congrès quand on arrivera au moment du vote, va donner la place au président, au vice-président senior, au senior plutôt,
Le plus âgé.
Voilà, qui est Issa Hayatou. Et ensuite, moi, je vais conduire le vote Et donc, au terme du vote, sera annoncé le vainqueur. Est-ce qu'il y aura un tour, deux tours? On verra en fonction du nombre de voix qui sont exprimées pour un candidat au premier tour. S'il n'a pas deux tiers des votes, à ce moment-là, c'est 50 plus 1 au deuxième tour, etc.
Alors, ce qui est important aussi dans cette élection, c'est aussi l'avenir. Il y a la Coupe du Monde en Russie, il y a la Coupe du Monde au Qatar, on va y revenir. C'est-à-dire que l'avenir avec le président Joseph Blatter, bon, vous le connaissez, vous travaillez avec lui, il y en a un certain nombre qui disent qu'il est fatigué, qu'il est usé, etc. Ce qui n'est pas le cas, a priori, parce qu'il est toujours hyper motivé.
Je pense qu'on peut dire tout ce que l'on veut de Sepp Blatter, mais ce qu'on ne peut pas lui enlever, c'est qu'il a une motivation totale, extrême quand il s'agit de la FIFA. C'est sa vie. On va dire pour définir ce que la FIFA représente pour Blatter, c'est sa vie. À un moment donné, je sais que Platini disait la FIFA, c'est Blatter. Il avait dit ça dans une interview. Il a, d'une certaine manière, il a raison. La FIFA, c'est tout pour Blatter. Quand Blatter est arrivé, il était le 12e employé de cette maison. La FIFA, à l'époque, dans les années 70, c'était une petite institution, si on la compare à ce qu'elle est aujourd'hui. Le football n'était pas aussi développé, mais ça, c'est aussi notre société qui l'a voulu ainsi. Mais encore une fois, c'est toute sa vie. Il a été dans ce train qui est passé de 12 personnes à aujourd'hui plus de 400 personnes, à un sport qui était un sport et qui est devenu numéro un au monde, à un sport qui générait peu de choses et qui aujourd'hui ne génère pas que des millions, génère une fantastique, je veux dire, un fantastique dynamisme autour de ce sport. Donc, oui, Blatter, sa passion, c'est la FIFA, et par conséquent, du moment où on parle FIFA, il marche à 1000 à l'heure.
Je vous rappelle que l'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir est Jérôme Valque, le secrétaire général de la Fédération Internationale de Football. À tout de suite.
L'invité de Stade Bleu, Jacques Vendroux.
Invité de ce Stade Bleu en ce dimanche soir, Jérôme Valque, on va profiter de vous avoir sur France Bleu. Donnez-moi des nouvelles de la Russie. Est-ce que la Coupe du Monde de 2018 se présente bien?
Je pense que ça va bien. Toutes les constructions sont en cours. Tous les projets ont été signés. Tous les contrats ont été signés. Tous les stades sont en cours de construction. C'est vrai que la Russie vit une période un peu compliquée, vit une certaine crise économique. Donc c'est toujours quelque chose qui fait que ça peut poser un certain nombre de problèmes, mais globalement aujourd'hui ça va bien. On a une réunion dans quelques jours à Saint-Pétersbourg, donc une réunion de la commission d'organisation avec Vitali Moutko, qui est le président de la commission d'organisation du comité d'organisateurs local, mais qui est aussi le ministre des Sports. Et il y a une passion, il y a une envie de la Russie de faire de cette Coupe du Monde un grand moment. Donc on est sur 11 villes, on est sur 12 stades. On travaille pour assurer que les stades ne sont pas démesurés. Donc, on travaille sur certains stades où on aura 25 000 places fixes et on met 20 000 places temporaires pour que des stades, ensuite, après la Coupe du Monde, redeviennent des stades de 25 000 personnes, ce qui est plus adapté au tissu local, on va dire, et au football local. Bref, il y a un travail qui est intéressant, on est, comme on dit en anglais, full speed, donc à pleine vitesse, et je suis persuadé que ça sera une très belle Coupe du Monde.
Alors, on est obligé de parler du Qatar. Quoi qu'il arrive, la Coupe du Monde aura lieu en 2022. Si je vous dis qu'il y a trois options, première option, janvier-février, deuxième option, en mai, éventuellement, et troisième option, en novembre-décembre. Vous êtes d'accord avec moi?
Moi, je dirais plutôt qu'il y a deux options. Je dirais janvier-février, novembre-décembre.
Et ça va se décider quand? Parce que c'est un sujet qui est récurrent maintenant.
Ça se décidera la troisième semaine de mars.
C'est-à-dire que là, vous allez tous vous réunir à Doha et vous allez prendre la décision.
On se réunit tous à Doha dans 15 jours et on va discuter encore des différentes options. Mais troisième semaine de mars se réunit le comité exécutif de la FIFA et à ce moment-là, le comité exécutif de la FIFA prendra la décision.
En ce qui concerne le Qatar, il y a des bruits. La corruption, ça doit vous agacer. Michael Garcia a fait un rapport qui était bon, un coup il était bon, un coup il était mauvais, etc. Quelle est votre attitude, Jérôme Valque?
Agacer, c'est pas le mot. Je crois qu'il est temps d'arriver à une conclusion et de dire Qatar ou pas Qatar. Or, le rapport de Michael Garcia, quels que soient les commentaires qui aient pu être faits, le rapport qui a été fait ensuite par le juge Eckert et par des indépendants, comme l'a expliqué Domenico Scala après le comité exécutif au mois de décembre à Marrakech, démontre qu'il n'y a eu aucun problème qui justifierait de refaire un vote et que donc l'attribution du Qatar est confirmée. Par conséquent, une fois que ça a été décidé, une fois il est vrai que les dates de la compétition seront finalisées, on a encore une fois dans quelques jours aussi à l'occasion de cette task force que l'on fait sur les dates du Qatar, on aura pour la première fois une réunion du comité d'organisation à Doha. Donc on rentre dans la phase maintenant de travail et de préparation de cette Coupe du Monde 2022. Maintenant, il y a un moment donné où j'entends dire encore qu'il y a des rapports ou qu'il y a des informations qui circulent ou qui tendent à montrer qu'il y a eu corruption, etc. Qu'elles viennent chez nous. Et on a une commission d'éthique. Cette commission d'éthique a travaillé 2 ans avec Michael Garcia sur la base de différents documents et de témoignages et n'est pas arrivée à démontrer qu'il y avait eu corruption pour l'attribution de la Coupe du Monde du Qatar de 2022. S'il existe des preuves, que ces preuves, au-delà d'être commentées par des personnes X, Y ou Z, que ces preuves soient adressées à la commission d'éthique de la FIFA, dont on ne peut pas dire qu'elle n'est pas indépendante, et cette commission d'éthique de la FIFA mènera les investigations qui sont nécessaires pour assurer de la véracité ou de la non-véracité de ces preuves et pour ensuite prendre des décisions. Mais encore une fois, ce n'est pas au monde de dire ce qui est, s'il existe ou non des faits pour démontrer qu'il y a corruption. Que le monde, à ce moment-là, ou tous ceux qui ont ces preuves, les donnent à la commission d'éthique de la FIFA pour que la commission d'éthique de la FIFA puisse les regarder et prendre des décisions. Et c'est insensé que l'on lise des choses dans les médias sur des faits de corruption, mais que ces mêmes informations, on ne les ait pas nous, là, je ne parle pas moi de moi, je parle de la commission d'éthique, la commission d'éthique n'ait pas ces informations pour pouvoir aller au bout des investigations.
Donc quoi qu'il arrive, la Coupe du Monde aura lieu au Qatar.
La Coupe du Monde, il a été dit, il a été redit, encore une fois, par Domenico Scala, qui est indépendant aussi, et qui a été nommé par le Congrès à l'époque, que sur la base de la lecture, sur la base de la lecture également par des experts indépendants, au-delà de Michael Garcia qui a rédigé ce rapport, au-delà du juge Eckert qui est le juge de la commission d'éthique, qu'il n'y avait aucun élément qui justifiait que le vote devrait être réouvert et refait quand il s'agit de la Coupe du Monde 2022.
Alors pourquoi, c'est certainement des jaloux, pourquoi il y a autant de personnes qui entretiennent systématiquement autour de la FIFA ce mot qui fait peur, corruption? C'est forcément des gens qui souhaitent avoir le pouvoir, c'est forcément des gens qui sont, comme je l'ai dit, jaloux de la situation de la FIFA, qui est une entité sans doute l'une des plus importantes du monde. Le mal vient forcément de quelque part, parce que c'est récurrent. Et c'est agaçant, et c'est énervant pour vous, secrétaire général, par exemple.
Qu'il y ait eu des problèmes liés, entre guillemets, à des influences, à potentiellement des gens qui auraient accepté ou qui auraient imaginé accepter de négocier à une époque leur support contre X, Y, Z. Il semble que ça soit arrivé, puisque encore une fois, la commission d'éthique a pris des décisions et a suspendu un certain nombre de personnes et qu'un certain nombre de membres du comité exécutif de 2010 ne sont plus membres du comité exécutif aujourd'hui. Donc bref, moi, je veux bien qu'on dise qu'il y a eu des problèmes, mais il faut qu'on reconnaître aussi ce que la FIFA a fait. Il faut que l'ensemble des institutions, qu'elles soient politiques, comme le Conseil de l'Europe, ou autres qui critiquent et qui disent que la FIFA ne va pas assez loin, qu'il faut créer une nouvelle FIFA et qu'il faut faire ci et qu'il faut faire ça, il serait quand même assez honnête de reconnaître tout ce que la FIFA a fait dans son processus de réforme, que ça soit sur des commissions indépendantes, que commission d'éthique, commission audit et compliance, que ça soit sur la nomination des présidents de ces commissions et de ces membres par le congrès de la FIFA et non pas par le comité exécutif lui-même, que ça soit l'ensemble de la réforme qu'on est en train de faire sur l'attribution pour la prochaine Coupe du Monde 2026 et donc prendre en compte tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait pour éviter justement qu'il y ait des dérapages. Encore une fois, je pense que de toute façon, quoi que l'on fasse, l'image de la FIFA ne changera pas et qu'on sera systématiquement critiqué.
Je vous rappelle que l'invité de Stade Blanc ce dimanche soir, eh bien, c'est Jérôme Valck, le secrétaire général de la FIFA.
L'invité de Stade Bleu, Jacques Vendroux.
Vous venez d'en parler, Jérôme Valck, secrétaire général de la FIFA. Le Conseil de l'Europe a déclaré il y a quelques jours, il faut revoter l'histoire du Qatar. Quel est votre sentiment?
D'abord, ce n'est pas au Conseil de l'Europe de dire cela. C'est aux membres de la FIFA. Ça pourrait être au congrès de la FIFA, aux 209 membres, mais encore une fois, ça c'est une des décisions qui a été prise dans le cadre des réformes, que les prochaines attributions seront faites par le congrès de la FIFA et non pas simplement par le comité exécutif qui lui, entre guillemets, n'a plus qu'à produire la liste réduite du nombre de candidats avec un maximum de 3. Mais sur quelle base? Je veux dire, si l'enquête de la commission d'éthique se conclut par un rapport qui dit qu'il n'y a aucun élément qui justifie de refaire le vote de 2022, sur quelle base une autre entité demande à ce que le vote ait lieu? C'est la seule question que je pose. Il y a un moment donné où, je veux dire, on a mis en place des structures indépendantes, des structures qui nous ont été recommandées par une organisation indépendante, qui était dirigée par quelqu'un de très célèbre dans le combat contre la corruption qui s'appelle Marc Piette. Il nous a été recommandé de créer une commission d'éthique indépendante avec deux chambres indépendantes, une chambre d'investigation et une chambre de jugement. Et cette structure a défini, in fine, qu'il n'y avait pas, encore une fois, à refaire le vote. Qui, à ce moment-là, a
mais
le droit de
le
demander...
Conseil de l'Europe s'en mêle maintenant.
Parce que j'ai l'impression que du moment où on parle de football, d'abord, ça permet de faire beaucoup parler de soi-même et d'être immédiatement à la une de l'actualité et d'avoir une couverture, pas dans les médias mondiaux, hein, on parle des médias en Angleterre, des médias, quelques médias en Allemagne, peut-être un ou deux en Suisse. Hein. Encore une fois que c'est facile, c'est démagogique d'une certaine manière. Et par conséquent, je pense qu'il y a d'autres sujets dont ces entités devraient s'occuper et qui sont plus réellement sous leur responsabilité que de s'occuper de savoir si le Qatar devrait ou ne devrait pas organiser la Coupe du Monde 2022 sur la base, encore une fois, d'informations qui, au lieu de les garder et de prendre et de faire des remarques ou de faire des réflexions aux médias, si vraiment il y avait un souhait que les choses soient clarifiées, à ce moment-là, ces informations devraient être envoyées à la commission d'éthique pour que la commission d'éthique puisse faire des investigations.
Alors, on parle des avions qui s'écrasent, on parle des trains qui déraillent, on parle de beaucoup de choses négatives. En revanche, côté FIFA, et moi je sais, parce que je vous connais depuis longtemps, qu'il y a, je veux dire, un investissement énorme de la FIFA en ce qui concerne des œuvres caritatives et surtout des investissements dans des pays, je veux dire, qui ont besoin de stades, qui ont besoin, je veux dire, d'équipements, etc. Faut pas l'oublier, ça c'est aussi le rôle de la FIFA. Mais ça, on n'en parle pas.
Parce que tout le monde s'en fiche. Je crois que dans le principe, c'est quand même que une histoire sympa, tout le monde s'en fiche. Une histoire qui fait rêver. Alors oui, peut-être une histoire glamour entre une star, une princesse et une star, ça fait rêver et donc on en parle. Mais globalement, ce que l'on aime, c'est tout ce qui est sale, tout ce qui est un peu sombre, tout ce qui c'est ça qui fait vibrer. C'est en général, c'est ce que vous lisez quand vous allez chez le dentiste. Moi, il y a beaucoup de magazines que je n'achèterai pas, mais quand je suis chez le dentiste, je saute dessus et je regarde les photos et ça m'amuse.
Oui, on aime le croustillant, mais on peut aussi parler des choses positives de la FIFA. Il y en a, c'est énorme en plus.
Ça ne fait pas vendre. Qui va vous dire ?
Ça ne fait pas vendre, mais on peut en parler sur France Bleu quand même.
On peut en parler sur France Bleu et nous, on essaye d'en parler. C'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de communiquer là-dessus. Mais la FIFA, dans le dernier cycle, entre l'année, on va dire, 2011 et 2014, la FIFA a dépensé ou investi $1 milliard pour développer le football à travers le monde, pour assurer encore une fois que le football se joue partout dans le monde, que le football est un vecteur et un véhicule d'espoir pour les gamins, que le football a ses vertus et qu'une école de la vie, etc. C'est pas juste du football mercantile. Le football mercantile, c'est une partie minime du football. Quand on parle du football professionnel, c'est le haut de l'iceberg. Si vous imaginez le nombre de clubs amateurs qui se jouent, le nombre de matchs qui se jouent tous les week-ends à travers le monde, c'est monumental. Et on ne parle, c'est vrai, que du PSG, du Real de Madrid, du Barça, du Milan AC, de la Juventus, de Manchester United, Manchester City, Chelsea, Arsenal. Ça, c'est juste la partie exceptionnelle, la partie prestigieuse du football. Le football se joue quotidiennement à travers le monde, à tous les niveaux, et c'est toute cette partie qui est fondamentale, parce que si vous n'avez pas ça, tous ces programmes de jeunes et tout ce programme de développement, vous n'aurez pas le football de haut niveau. Donc nous, on utilise notre diamant, qui s'appelle la Coupe du Monde, pour refinancer tout ça.
L'invité de Stade Blanc ce dimanche soir, vous l'avez reconnu bien sûr, puisque c'est Jérôme Valck, le secrétaire général de la FIFA.
L'invité de Stade Bleu, Jacques Vendroux.
Jérôme Valck, secrétaire général de la FIFA, allez, on va le dire, le numéro 2 du football mondial. Est-ce que dans ce métier que vous exercez depuis longtemps, parce que là vous la connaissez bien, la FIFA, est-ce que vous vous éclatez? Est-ce que quelquefois la fonction n'est pas trop lourde? Il y a peut-être plus d'ennuis que de satisfaction? Est-ce que quelquefois vous n'êtes pas un peu usé?
Non, je pense que dans ce genre de fonction, le jour où vous êtes usé ou le jour où vous avez plus de négatifs que de positifs, il faut partir en courant. C'est fondamental d'être heureux, c'est fondamental de se lever tous les matins en disant que vous faites quelque chose d'exceptionnel. Et il suffit de regarder ce qu'il y a dans les yeux des uns et des autres lorsque vous dites que vous êtes à la FIFA, parce que tout le monde n'a pas cette image négative de la FIFA. Quand vous êtes à la Coupe du Monde, il y a des moments qui sont magiques. Hein. Il y a plus de moments magiques que de moments tristes ou ennuyeux. En même temps, c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de politique dans le sport et que le football est devenu aussi important que cela, ce qui fait que vous avez un environnement qui est un peu plus compliqué, qui est beaucoup plus compliqué même d'ailleurs qu'il y a quelques années. Donc c'est lourd, c'est pas tous les jours facile. Mais encore une fois, quelle chance! Je pense qu'il y a des millions, si ce n'est des dizaines, si ce n'est encore plus, qui rêveraient de faire ce que vous faites, hein, ce que je fais, ce que font l'ensemble des gens qui travaillent à la FIFA. On vit dans le football. Alors ensuite. Et c'est pas parce que on n'a pas besoin d'être un ancien joueur de football pour être excité et pour faire ce que l'on fait et pour être passionné de ce que l'on fait. Mais on vit au milieu de ça. C'est-à-dire que vous vivez au milieu de joueurs, vous vivez au milieu de coachs, vous vivez au milieu de fans, vous vivez dans un environnement qui est encore une fois un environnement du sport qui est un des environnements les plus fantastiques, les plus jouissifs qui existent.
Est-ce qu'on peut dire que le président de la FIFA est un homme politique?
Ben il a la stature d'un homme politique. Il fréquente des hommes politiques. Lorsqu'il voyage, il est en général reçu par le chef de l'État ou par le Premier ministre. Lorsque Blatter va en Russie, s'il n'est pas là, comme c'était le cas ces derniers jours, Poutine a eu un échange téléphonique avec Blatter où ils ont parlé de l'organisation de la Coupe du Monde et autre chose. Donc non, le président de la FIFA a une posture majeure et je pense que c'est ce qui fait que vous avez un tel intérêt et une telle excitation autour de cette candidature et de cette élection.
On a beaucoup parlé des rapports entre l'UEFA et la FIFA, donc entre Michel Platini et le président Blatter. Quel est votre avis sur ce sujet ?
Je crois qu'on en a beaucoup parlé il y a quelque temps. Maintenant que Michel Platini a pris la décision de ne pas se présenter à la FIFA et de se consacrer à l'UEFA, on en parle un peu moins. Je veux dire, c'est ce qui, je pense, excitait un peu tout le monde de savoir s'il y aurait ce
combat entre guillemets entre Platini et Blatter.
En tout cas, cette contestation de Michel sur Blatter en tant que président de la FIFA, bon, ça n'arrivera pas.
Ça n'arrivera pas parce que Blatter, de toute façon, vous l'avez dit, se représente et c'est l'homme de la situation, malgré tout ce qu'on peut dire sur lui.
Moi, je pense. Et encore une fois, j'ai toujours dit, je suis le secrétaire général de la FIFA, mais je suis le secrétaire général de Sepp Blatter. Donc, je ne prendrai pas part à la campagne présidentielle parce que je dois assurer ma fonction qui est celle de diriger l'administration de la FIFA et non pas de diriger une campagne ou de supporter un candidat. Donc, je serai totalement neutre vis-à-vis des différents candidats qui sont présents à cette élection. Mais encore une fois, je suis le secrétaire général de Sepp Blatter.
209 pays affiliés à la Fédération internationale de football. Quelles sont les demandes d'affiliation dans l'avenir? Qui souhaite rejoindre la FIFA?
Oh ben vous avez le Kosovo, qui bien évidemment fait partie de ces pays qui souhaitent rejoindre la FIFA. Bon, il y a une différence au niveau de la reconnaissance du Kosovo selon les statuts de l'UEFA ou selon les statuts de la FIFA, entre reconnus par les Nations Unies ou reconnus par la communauté internationale. Il y a un certain nombre de pays, mais en même temps, il faut vous assurer qu'un pays, maintenant il y a une règle, c'est-à-dire que le pays doit être membre de la Confédération et ensuite devenir membre de la FIFA, mais il faut pas que non plus ça soit entre guillemets une farce. Il faut que le pays ait un réel potentiel, non pas de jouer la Coupe du Monde, c'est pas ça l'objectif, parce que sur les 209 vous en avez pas beaucoup qui arrivent in fine dans la phase finale de la Coupe du Monde, mais qui est un développement du football, qui est le potentiel de jouer du football et qui est le potentiel d'utiliser le football encore une fois comme un moteur de développement pour le pays. Donc il y aura toujours des demandes, mais 209 ça fait déjà, je crois qu'on a couvert pas mal le globe, hein.
Merci Jérôme Valque d'avoir été l'invité de Stade Bleu en ce dimanche soir. Bonne chance pour l'avenir, bonne chance en tous les cas pour l'élection présidentielle de fin mai. Vous étiez sur France Bleu, 19h30, 20h, France Bleu, et l'émission, vous la connaissez, c'est Stade Bleu. Merci Jérôme Valque.
Merci, à bientôt.
Retrouvez Stade Bleu sur francebleu.fr.